France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des initiatives en Dordogne, toute cette semaine dans les carnets. Aujourd'hui, nous parlons d'une association qui prend soin des renards blessés ou orphelins et qui les libère ensuite dans la nature. Le Clos des Renardises milite par ailleurs pour que le renard ne soit plus considéré comme un animal nuisible, une espèce susceptible d'occasionner des dégâts, c'est le terme officiel, et que l'on peut donc abattre en dehors de la période de chasse. Mais avant d'en venir au renard, de projecteurs sur un réseau social solidaire. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Une application pour mettre en contact celles et ceux qui ont besoin d'aide et celles et ceux qui peuvent éventuellement les aider. Elle s'appelle Parrain Marraine. Elle vient tout juste d'être lancée et sa créatrice est au bout du fil. Bonjour Isabelle Canto.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets. Alors c'est un engagement associatif bénévole de votre part. Vous travaillez par ailleurs dans le conseil en droit du travail et vous proposez avec cette application Parrain Marraine une entraide directe entre les citoyens. Comment ça marche précisément ?
Alors, l'application est assez simple. Elle met en contact direct des enfants, des adolescents, des étudiants, des profils qui ont besoin d'un coup de pouce matériel avec des personnes prêtes à les soutenir. Sur l'application, il n'y a pas de don d'argent. Hein. On parle uniquement de dons matériels utiles. Ça peut être du neuf ou de l'occasion, des vêtements, de l'alimentation, des fournitures, des produits du quotidien. Et en fait, c'est vraiment des besoins qui sont exprimés directement par les jeunes et leurs familles, de manière à ce que ce soit vraiment ciblé et utile. Un parrain peut choisir d'envoyer des colis plus ou moins régulièrement et d'entretenir un contact, un soutien avec le jeune. Ou alors, on peut aussi faire des dons spontanés. Ça peut être un seul coup de pouce en envoyant un seul colis.
Les personnes précaires qui ont un besoin précis, hein, vous évoquiez tout à l'heure les fournitures scolaires, les produits d'hygiène, est-ce qu'elles peuvent renseigner leurs besoins dans l'application ?
Oui, tout à fait. Il y a un menu déroulant pour les filleuls où on propose des thèmes, vêtements, alimentation, fournitures, produits du quotidien. Et après, une fois que les parrains marraines rentrent en contact avec un filleul, eh bien, ils peuvent rentrer dans le détail, par exemple les vêtements, les tailles. Alors, la prise de contact peut être faite uniquement par les parrains marraines. Il n'y a qu'eux qui peuvent initier un contact. Et le filleul de l'autre côté reçoit une invitation qui peut accepter ou décliner. Le filleul, à ce moment-là, il a accès à la fiche aussi du parrain pour voir s'il a envie de matcher avec cette personne ou pas. Donc, il peut accepter ou refuser. Et si la personne accepte, il y a une messagerie qui se met en place, où tous les deux peuvent parler avec leur pseudo pour faire connaissance, échanger, faire connaissance et cibler un peu plus les besoins du filleul.
Voilà, cette messagerie que propose l'application, ce n'est pas un détail, hein, parce que l'idée, évidemment, n'est pas du tout de vous substituer au travail des associations caritatives, mais vous proposez un lien qui est plus direct, plus personnalisé entre le ou la filleule et son parrain ou marraine.
Ouais, c'est ça. Le but de l'application, c'est vraiment de lutter contre la précarité et l'isolement des jeunes avec l'aide d'une entraide directe et humaine entre citoyens. C'est vraiment pour venir compléter le travail des associations. Je vois au niveau des retours des filleuls, ce qui ressort, c'est vraiment, en plus du soutien matériel, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est le soutien moral. Ils sont vraiment touchés par la générosité des gens. Et pour une bonne partie, ça les sort même d'un isolement social.
Et vous avez quelques exemples de ce qui a été donné pour l'instant. Elle est toute récente, hein, votre appli.
Oui. On a quand même plusieurs parrainages déjà. Donc oui, on a pas mal d'étudiants en situation de précarité. Donc je vois qu'il y a pas mal de nourriture qui est envoyée. Après, j'ai aussi des utilisateurs qui utilisent les drives. Alors je vais citer deux marques. Hein. Leclerc Auchan, par exemple. On peut très bien, nous, en tant que particulier, avoir un compte. Vous avez juste à donner le code barre à l'étudiant en lui disant il y a une fourchette d'heures pour passer. Il faut se mettre d'accord sur la messagerie. Voilà. Et on fait aussi, il y a aussi des parrains marraines qui font ça.
Comment avez-vous procédé, Isabelle, pour assurer la sécurité des échanges sur l'appli ?
Alors on a donc déjà on s'est documenté sur la conformité réglementaire et juridique des réseaux sociaux. Ensuite Apple, on est sur les stores Apple et Google Play qui ont un niveau d'exigence assez élevé parce qu'on est classé comme un réseau social. Donc on a répondu à toutes leurs questions, toutes leurs exigences. Donc comme tout réseau social, on peut stopper, bloquer ou signaler un contact. Il y a tous les outils mis en place pour la sécurité des utilisateurs.
Parrain Marraine, application mobile gratuite. Merci beaucoup Isabelle Canto.
Ben merci à vous Dorothée.
Et bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Des initiatives en Dordogne, je le disais cette semaine, puisque le jeu des 1000 euros est à Nontron, dans le Périgord vert. Mathieu, un auditeur, nous a écrit pour présenter le Printemps dans l'oreille, festival 100% local, organisé par l'association Dandiment Chaud, du 17 au 19 avril à Saint-Rabier, à mi-chemin entre Périgueux et Brive. Une programmation musicale éclectique, écrit-il, avec plus d'une quinzaine de groupes du territoire, mais aussi des spectacles de rue, un marché des musiciens, un village associatif, une balade musicale. En bref, une belle agitation culturelle rurale concoctée par une équipe de joyeux bénévoles. Le Printemps dans l'oreille, c'est à Saint-Rabier en Dordogne du 17 au 19 avril.
France Inter. Carnet de campagne.
Faut-il réhabiliter le renard ? Des associations se mobilisent partout en France pour que cet animal quitte la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, les ésodes, qui est le nouveau nom des nuisibles. Un décret fixant la liste des espèces ésodes doit être publié cet été pour les 3 prochaines années. En Dordogne, une association milite pour ce changement de statut du renard roux, le Clos des renardises. Bonjour Karine Grèce.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes la présidente et salariée de cette association qui est installée à Douzillac, pas loin de Périgueux. Alors le Clos des Renardises est un refuge pour renards blessés et vous venez d'ouvrir en janvier un centre de soins qui est le seul en France à être dédié uniquement aux renards et dans lequel vous soignez les animaux avant de les relâcher. Quelles sont les causes principales de blessures des renards ?
Alors les causes principales d'accueil des renards en centre de soins, c'est essentiellement des causes de choc avec des véhicules, donc le trafic routier. Ensuite, il y a les prédations de chiens, le piégeage, parce que même si les pièges à mâchoire sont interdits, bon, il arrive encore qu'on nous apporte des animaux qui sont presque amputés. Puis il y a aussi bon, parfois de la chasse aussi, mais en général, les animaux qui sont blessés à la chasse vont plutôt mourir au fin fond des bois et on ne les retrouve pas, ou alors le chasseur a tiré un bon coup et l'a eu directement. Donc l'animal ne souffre pas dans ce cas-là et il ne vient pas dans un centre de soins.
Votre objectif, c'est de relâcher les animaux une fois soignés ?
L'objectif en général des centres de soins, oui, en effet, c'est de soigner des animaux qu'on apporte blessés ou orphelins pour les plus jeunes ou malades, mais généralement de cause humaine, donc d'activité humaine. Donc on les accueille, on fait un tri sur le volet en arrivant parce que le diagnostic doit être quand même pas trop mauvais. Le but n'est pas de sauver des animaux et d'en faire des handicapés et de remplir des refuges, ni de relâcher des animaux qui ne savent pas se débrouiller tout seul. Le but est vraiment de rendre la liberté à nous, dans notre cas, à des renards qui peuvent toujours jouer leur rôle de renard, c'est-à-dire savoir chasser, se reproduire et se débrouiller dans la nature sans souffrance.
Alors, je parlais de ce statut ésode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Pourquoi pensez-vous que le renard roux ne devrait pas figurer sur cette liste ? Et surtout, qu'est-ce que ça changerait, Karine ?
Eh bien, il y a de très bonnes raisons de protéger le renard roux. Déjà, à la base, c'est un maillon indispensable de la biodiversité. Chaque espèce a un rôle à jouer et le renard en a un particulier parce que, avec d'autres espèces, il régule les populations de rongeurs qui, eux, ont une reproduction exponentielle. Et par ce fait-là, il limite la prévalence, donc le nombre de maladies ou en tout cas de cas de maladies, comme par exemple, on l'a démontré lors d'études, la maladie de Lyme. Là, c'est une maladie qui touche les humains, donc c'est une zoonose et qui est très embêtante parce que c'est une maladie qui est véhiculée à la base par les tiques. Et en fait, les tiques se nourrissent de leur premier repas sanguin sur des rongeurs qui sont eux porteurs de cette bactérie. Elles se contaminent et ensuite elles vont probablement, potentiellement contaminer des randonneurs, des promeneurs, des humains qui, dans la nature, peuvent rencontrer ce genre de danger. Et le renard, par le fait qu'il mange des rongeurs ou qu'il est présent et qu'il exerce une certaine pression sur ces animaux-là, intervient dans ce processus d'empêcher ces tiques d'aller se nourrir sur des animaux contaminés comme sont les rongeurs.
Voilà, si le renard roux sort de cette fameuse liste, il serait interdit de le tuer.
Il ne serait pas interdit de le tuer parce qu'il resterait gibier, mais il serait interdit de le tuer hors saison de chasse. Donc, entre septembre et mars, il est gibier. Et au-delà, il ne serait plus chassable de toutes les façons dont il l'est à cette période. Et en plus, à partir de mars, naissent les petits. Et puis, il y a des pratiques qui ne sont pas toujours d'une éthique exemplaire, comme le déterrage, par exemple.
Voilà, la différence entre un nuisible, ou en tout cas un ésode et un gibier, c'est la période pendant laquelle il est autorisé de tuer les animaux.
Voilà, oui, voilà. En gros, c'est ça. Bon, après, c'est à partir du moment où on déclare qu'il fait des dégâts ou qu'il peut occasionner ces dégâts qui souvent ne sont pas forcément vérifiables. Quand il s'agit de dégâts dans les élevages de volailles, il n'y a pas un expert qui vient sur place pour contrôler justement quelles volailles ont été tuées. Et puis, il n'y a pas que le renard non plus. Hein. La faune sauvage a parmi elle aussi d'autres prédateurs comme les rapaces, les mustélidés et les domestiques aussi. Les chiens, les chats peuvent faire des ravages aussi dans les poulaillers. Et voilà, donc on ne peut pas tout mettre non plus sur le dos des renards ni des ésodes. Et en fait, on devrait pouvoir cohabiter avec cette faune sauvage parce que le sauvage fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Et l'homme, à partir du moment où il exerce une activité, il est souverain dans son activité et préfère la solution facile d'éliminer ce qui peut le déranger dans les animaux, comme le renard qui vient lui piquer les poules, alors que la solution et l'unique solution, c'est de faire un poulailler ou un enclos sécurisé. Parce que de toute façon, tuer un renard, ça ne fera que postposer le problème parce qu'un espace libéré est très vite réinvesti. La nature n'aime pas le vide. Donc, on tue un renard et très rapidement après, un autre renard va venir et le problème va recommencer et c'est infini.
Votre centre de soins, je le disais, vient tout juste d'ouvrir. Quels sont les besoins de l'association aujourd'hui ?
Bien, nous avons toujours besoin de fonds pour fonctionner, pour nourrir les animaux, pour les soigner, donc pour les visites vétérinaires, les médicaments. Et puis bon, pour les installations, on est déjà pas mal installés. Et puis on verra à l'avenir de quoi nous aurons besoin ultérieurement. Mais avant tout, c'est le bien-être de nos animaux et de pouvoir les nourrir et subvenir à leurs besoins.
Est-ce que vous sauriez dire pourquoi vous aimez tant cet animal, le renard roux, Karine ?
Ça, c'est une longue histoire. Moi, j'étais baignée dans les poils et les plumes depuis que je suis toute petite. Je suis née là-dedans. Et ma première passion, ça a été les animaux sauvages, déjà parce que j'habitais à la campagne et que j'avais la chance d'avoir des parents très sensibles à la nature. Et quand ils travaillaient, c'était mon grand-père qui me comptait le nom des arbres, des oiseaux et de tous les animaux qu'on pouvait découvrir pendant nos balades. Et puis, petit à petit, j'en ai fait ma vie professionnelle aussi des animaux. J'étais assistante vétérinaire pendant de longues années. Et pour les animaux domestiques, mais j'ai soigné pas mal de sauvages, et parmi les sauvages, beaucoup de renards. Et je suis belge d'origine, et dans les campagnes belges, on a cet animal emblématique également, qui m'a toujours fascinée, parce que quand on croise le regard d'un renard, les personnes qui ont croisé ce regard ambre peuvent vous le dire, ça laisse plus indifférent et ça marque à jamais.
Et d'ailleurs, en Belgique, il n'est pas nuisible, le renard.
Il est chassable, mais il n'est pas nuisible, non. Il n'a pas de statut ésode comme ici en France.
Le clos des renardises, c'est à Douzillac, en Dordogne. Merci beaucoup, Karine Grèce.
Je vous en prie, merci Dorothée.
Et bonne journée, au revoir.
Merci, au revoir.